Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne tout de suite avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Lemel, on arrive à une nouvelle paracha, évidemment, un chapitre que nous lisons dans nos communautés, et celui-ci s'appelle Tazria. Tazria parle de plusieurs choses essentielles, dont la Nida. Alors, la Nida, c'est... Il y a plusieurs façons d'être Nida, si j'ose dire. Par exemple, après une naissance, dit notre paracha, mais pour la plupart de nos auditeurs, c'est un problème mensuel, au moment donc des menstruations des femmes... Et ça pose un problème avec lequel moi j'ai toujours eu des difficultés, c'est l'idée de pur et impur. Qui va nous dire que la personne que nous aimons le plus au monde est impure ? Ça veut dire, c'est... très franchement, moi j'ai jamais compris ce mot-là. Je comprends juste, injuste, bon, mauvais, bien, pas bien, mais dire à quelqu'un t'es impur, j'ai jamais saisi. Donc si ça pouvait être l'occasion d'être paracha, que vous nous expliquiez, Rav Eli Lemel, qu'est-ce que ça peut signifier, on vous écoute avec une attention redoublée.
Oui, en effet. D'abord, il faut bien comprendre que tout l'enjeu de cette paracha qui va nous parler, en effet, de certaines lois de pureté et d'impureté, eh bien, c'est de comprendre ce que veut dire le mot. C'est vrai qu'en français, lorsque vous dites à une personne qu'elle est impure, il y a une connotation extrêmement péjorative. Alors que lorsque l'on parle de ces notions-là dans la Torah, de pureté, d'impureté, je vais vous donner une image, et cette image d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une image que j'ai entendue de mon père, Zichrono Livracha, et que je trouve extrêmement claire pour expliquer ce concept. Vous savez que, tout d'abord, dans la Torah, quand on parle de pureté, d'impureté, donc pour l'instant on ne va pas définir véritablement le mot, on parle d'adaptation ou d'inadaptation par rapport à quelque chose. En effet, la pureté, et on va prendre ça par l'impureté, est liée à l'univers de la finitude, à l'univers de la mort. En effet, lorsqu'une personne disparaît de ce monde, eh bien, le corps devient impur. De la même manière, lorsque l'on parle de cette fameuse impureté de l'anida, c'est-à-dire d'une femme qui a son cycle, le cycle d'une femme, c'est quoi ? C'est une vie impossible qui n'aboutit pas. Son corps s'apprêtait à potentiellement recevoir la possibilité de donner la vie, et puis il ne l'a pas reçue. Et donc, il y a quelque chose qui disparaît, et donc on est lié ici à quelque chose qui est du domaine de la disparition, de la mort. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a aussi une forme d'impureté lorsqu'il y a, chez un homme, une éjaculation, lorsqu'il y a en effet de la matière séminale qui sort de son corps, qu'on le veuille ou pas, il y a des milliers, des millions, enfin je ne saurais pas dire le chiffre, de spermatozoïdes, et ils sont tous potentiellement porteurs d'une vie en devenir, et même lorsqu'il y a union dans le couple, même quand il y a conception d'un enfant, eh bien, il y en a tous les autres, quelque part, entre guillemets, n'ont servi à rien. Donc, la notion d'impureté, c'est lié à la notion de finitude. Il est intéressant de constater que les lois d'impureté, eh bien, étaient d'abord liées au Mishkan ou au Beth Amikdash, c'est-à-dire au temple ou au Mishkan, au sanctuaire dans le désert. Pourquoi ? Parce que le temple, le sanctuaire dans le désert, ce sont les lieux de rencontre par excellence avec l'univers justement de l'infini, avec l'univers du divin. Le divin est là de manière constante, mais il y a un lieu qui symbolise de manière plus particulière cette rencontre avec l'infini. Et dans ce lieu dans lequel on s'inscrit dans l'idée de l'infini, il faut venir dans cet état de pureté, c'est-à-dire en ayant évacué cette dimension de finitude liée soit au contact avec un mort, soit le contact avec quelque chose qui en effet n'est pas la vie en devenir, mais qui s'est arrêtée. Et ça, c'est déjà donc une première notion qui est extrêmement importante au passage. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une femme a son cycle, le couple ne reprendra pas de vie conjugale avant cette fameuse histoire du mikvé, que l'on va expliquer dans quelques instants, de ce bain rituel, parce que, qu'on le veuille ou pas, un couple qui se retrouve dans l'intimité, eh bien, nous ouvre à la dimension de l'infini des possibles, parce que même si une femme, pour de multiples raisons, ne va pas avoir à un moment la possibilité de donner la vie, pour de multiples raisons, ça peut être la ménopause, ça peut être plein de choses, mais ce qui se joue dans cet acte, c'est ce qui pourrait potentiellement amener la vie, donc amener quelque chose qui est de domaine de l'infini, puisque la vie transporte la vie d'après, qu'elle-même transporte la vie d'après, et ce jusqu'à l'infini. Alors, à partir de là, qu'on a compris déjà que l'idée de la pureté et de l'impureté, en tout cas, c'est la rupture qui existe entre le monde de la finitude et le monde de l'infini, on va essayer de mieux comprendre, au fond, qu'est-ce qui se joue derrière les mots. Et là, je vais reprendre justement cette image que mon père Zichrono Livracha donnait un jour dans un cours. Vous avez la formule chimique de l'eau, H2O, d'accord ? Deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, donc on a H2O. H2O, c'est l'eau. Mais l'eau, eh bien, on peut la trouver sous différentes formes, gazeuse, solide ou liquide. Liquide, eh bien, c'est l'eau qu'on va boire. Gazeuse, c'est cette fumée qui s'échappe. Et puis, solide, c'est cette eau qui a été congelée. On est chaque fois avec la même base, mais qui a une structure différente et qui donc va être adaptée ou inadaptée à certaines fonctions. Traduit de manière différente, si vous voulez vous rafraîchir et que vous prenez l'eau à l'état gazeux, c'est-à-dire lorsque c'est justement cette vapeur qui s'échappe d'une bouilloire électrique, vous risquez fort de ne pas du tout vous rafraîchir, bien au contraire. Si vous voulez étancher votre soif et que vous prenez à un moment ce cube de glace, eh bien, il va beaucoup plus se retrouver en train de nous congeler la bouche, mais on ne pourra pas en effet le boire, etc., etc. Donc on est chaque fois avec la même chose, mais dans une forme différente, sous une forme différente qui est adaptée ou inadaptée. Et au fond, l'idée de la pureté et de l'impureté pour la Torah, ça serait un petit peu ça. C'est-à-dire, est-ce que à ce moment-là, dans cet état-là, je suis adapté à telle et telle chose ? Lorsque on véhicule cette dimension d'impureté, c'est-à-dire cette dimension de finitude, est-ce qu'on peut s'inscrire et être en contact avec quelque chose qui est du domaine de l'infini ? Et la Torah nous dit, non, pas tout de suite. Mais il n'y a pas du tout cette dimension du paria, du vade retro satanas, qui malheureusement se retrouve parfois aussi un petit peu dans la tradition juive, enfin pas dans la tradition, dans certains systèmes ou chez certaines personnes qui voient ça comme étant une forme de ségrégation. Voilà, la personne est impure, alors surtout, il ne faut pas non. À l'époque du temple, on devait faire attention à différents contacts, parce que le contact de certaines impuretés peut rendre une chose impure. D'ailleurs, vous savez qu'il y a, et c'est intéressant parce que c'est lié à la paracha, lorsque quelqu'un faisait de la médisance, eh bien, il avait cette affection de la peau qui s'appelait Tsaraat, qui le rendait impur, et il devait sortir du camp. Pourquoi ? Parce que, eh bien, la parole, elle est là pour créer l'infini relationnel. Mais lorsqu'elle est là pour créer la rupture et la finitude, puisque c'est ça la parole de la médisance, quand vous êtes en train, pas vous, ce qu'à Dieu ne plaise, mais quand l'individu est en train de médire, eh bien qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de créer un monde de rupture, un monde d'arrêt relationnel. Alors qu'au contraire, une parole positive, c'est elle qui entretient la relation, qui la développe, qui lui donne sa dimension d'infini. Donc lorsque quelqu'un a utilisé sa parole, qui est là pour créer cet infini dans la relation, mais exactement dans l'autre sens, pour créer la rupture, pour créer l'arrêt, pour créer la mort, au fond, parfois même très symbolique, d'une personne, parce que quelqu'un sur lequel vous avez fait de la médisance, on l'a tué aux yeux de la société, eh bien, il sortait, il était impur. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que quand il sortait, il disait à tout le monde, je suis impur, et à la fois, au niveau pédagogique, pour vivre l'expérience, d'avoir un regard qui se porte sur lui, qui n'est pas peut-être toujours si simple, mais disent les maîtres du Talmud, pour que les gens, entendant cela, prient pour cette personne, pour qu'elle puisse s'extraire de cette impureté de traduction, pour qu'elle puisse comprendre la leçon, et qu'elle puisse le plus rapidement possible réintégrer la communauté, parce que même la personne qui s'est rendue impure en créant cette mort symbolique chez l'autre, nous devons quand même nous dire, la pauvre, elle se retrouve là, quel dommage. Prions pour qu'elle puisse se réinscrire à l'intérieur de nouveau de la communauté et réavoir cette parole qui tend vers l'infini. Je ferme cette parenthèse, mais c'est très intéressant parce qu'on retrouve ça dans la même paracha. Et donc, adaptation ou inadaptation par rapport à une certaine réalité. Et ce n'est pas pour rien que sortir de cette impureté, eh bien, passe à travers le mikvé. Mikvé, on traduit en français par bain rituel, mais si vous arrêtez un instant, le mot mikvé vient de quelle racine ? Tikva. Kavé, c'est-à-dire l'espoir, l'espérance. Or, vous savez que le mikvé doit avoir une base d'eau de pluie. Après, la construction d'un mikvé, ça obéit à des règles particulières, mais s'il n'y a pas une certaine quantité d'eau de pluie dans ce qui va mettre en place le concept du mikvé, celui-ci ne marche pas. Or, c'est quoi l'eau de pluie? L'eau de pluie, c'est justement l'eau d'un cycle, l'eau de l'espérance. C'est-à-dire, vous aviez des nuages, la pluie est descendue, elle semble avoir disparu, mais elle remonte à nouveau et elle revient sur terre. C'est-à-dire, on a eu l'impression qu'il y avait une mort, qu'il y avait disparition, qu'il y avait arrêt. Mais en vérité, il y a un cycle et les choses vont reprendre. D'ailleurs, lorsque un homme comme une femme se trempe dans un mikvé, il se trempe pleinement à l'intérieur et c'est une forme de renaissance. C'est-à-dire, oui, nous étions en contact avec quelque chose qui est du domaine du fini et maintenant nous nous réinscrivons dans l'idée de l'infini. Au fond, c'est cette dimension d'espoir et d'espérance dans le futur qui est au cœur même de l'identité. Donc, on comprend bien que derrière ces lois de Nida qui sont capitales, vous savez, ma grand-mère de mémoire bénie, que j'ai eu le bonheur de connaître, qui a vécu jusqu'à 103 ans, eh bien, en pleine guerre, ma mère m'a raconté qu'elle lui a raconté qu'elle se débrouillait pour aller dans ce fameux mikvé qui était dans une petite rivière pas loin de chez eux de nuit avec son mari, c'est-à-dire pour montrer ô combien, on sait qu'à Massada, il y avait des mikvés. Pourquoi ? Parce que le peuple juif sait au plus profond de lui-même ce qui maintient vivace cette dimension d'éternité. Et c'est là où, en effet, la Torah nous apprend, nous dit, et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que ça s'inscrit dans une transmission, ça s'inscrit dans un vécu, et qu'il y a ici quelque chose de fondamental et de capital, au-delà du fait que les lois de l'Anida, comme on le sait, permettent au couple de réinscrire un futur au niveau du désir, parce que le moment dans lequel on va s'exprimer notre amour avec des mots avant de pouvoir reprendre l'univers du geste, c'est une expérience passionnante dans l'intimité du couple qui raffermit encore plus ce lien. Mais comme vous voyez ici, ces notions-là, au fond, sont capitales, sont fondamentales. Elles n'ont rien de péjoratif, bien au contraire. Et c'est ce que la Torah, au fond, veut nous transmettre.
Ravi Lilomel, on a appris quelque chose de très, très beau dans ce que vous venez de dire, parce que en disant adapté, inadapté, ça casse un peu cette idée, si j'ai bien compris ce que vous dites. Fausse, et que des fois qui a traversé l'esprit de certains, de dire bon ben impur c'est forcément bien que pur. Faut regarder les choses en face, et donc c'est très intéressant de dire non, c'est inadapté, par exemple pour des relations conjugales, pour, je sais pas. Magnifique, vraiment. Ravi Lilomel, on a beaucoup appris, on va essayer d'y réfléchir un peu, y compris pendant le Shabbat, c'est toujours le moment Shabbat de réfléchir au cours de Torah qu'on a eu pendant la semaine, et je vous remercie. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, au Mevorach, à tout le monde, Bezrat Hashem, on se souhaite à tous des bonnes nouvelles et on se souhaite à tous une vraie délivrance, une vraie délivrance durant ce mois de Nissan, le mois des miracles.
Mais on dit même, alors je ne vais pas vous lancer dans une dracha, mais j'ai entendu dire que c'était le mois du Mashiach. Et alors on a
on se le souhaite à tous, parce que comme on dit en Israël, parce qu'à part la Emouna, il reste de l'humour, c'est ou les élections ou le Mashiach. Donc on n'a pas le choix. Dès qu'on franchit l'espace aérien ici, on retombe dans le chaudron, donc il faut de l'humour. Voilà, donc c'est ou ça ou les élections.
On va demander le Mashiach alors.
Ouais, c'est mieux.
Vous savez, dans l'Arche de Noé, on mettait les animaux selon leur niveau. Et tout en haut, il y avait les hommes, et juste en dessous, il y avait les vaches, enfin bon, les animaux les plus nobles, et puis jusqu'en bas, et au tout dernier niveau, il y avait les vers de terre, les serpents. Mais il y avait encore une catégorie en dessous. Dans la catégorie en dessous, on mettait les hommes politiques.
Attention à ce que vous allez dire. on va pas se retenir,
Alors justement, voilà, voyez, regardez, on rigole. Est-ce que c'est bien de rire ou pas ? Ah, une bonne question. Et c'est d'ailleurs un peu l'un des enseignements que vous voulez nous prodiguer ce soir, nous faire partager ce soir. Parce que, en fait, Tazria, c'est la paracha, tout le monde le sait, du Lashon Hara. On attrapait des maladies si on faisait du Lashon Hara. Mais on est dans le mois, justement, de Pessah. Donc on est dans le mois où on se prépare à parler. Tout passe par la parole. On sait qu'il faut savoir se taire, mais il faut aussi savoir parler.
Exactement, oui. Enfin, savoir se taire et que le silence est un langage aussi. Oui, absolument, absolument. Alors, on a démarré ça sur une plaisanterie, parce qu'effectivement, on sort de Pourim, où à Pourim, on voit que des gens qui se sont tus sont des gens qui nous ont fait rire. Esther s'est tue, Mordechai n'a fait que prier, n'a pas beaucoup parlé. Il a écouté ce que disait Bigtan et Teresh qui voulait tuer le roi. Et au premier festin que Esther a organisé, elle s'est tue. Puis ensuite, ils ont parlé. Là, ces gens qui se sont tués aujourd'hui ont déclenché un rire historique, un rire intemporel. Et c'est le sourire qui nous accompagne dans tous les galouillots, dans tous les exils. Parce que finalement, il y a un proverbe yiddish qui dit « L'homme prépare des projets et Dieu rit ». Et finalement, c'est un petit peu ça l'enseignement. Alors maintenant, pour aller vers la délivrance de Pessah, où là, on nous demande de faire autre chose. À Pessah, il y a une mitzvah de Veigata le Bincha, de raconter à ses enfants. Il faut raconter à ses enfants l'exil, les souffrances, mais également la délivrance et les miracles qui ont accompagné cette délivrance. Il y a une mitzvah de parler. Veigata le Bincha, c'est une mitzvah positive de la Torah. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Pessah, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est à Pessah, c'est la bouche qui parle. Mais là, c'est pas seulement la bouche qui parle, c'est la bouche qui va parler de choses qui sont, en quelque sorte, qui constitue en quelque sorte la vie même de l'individu. On va parler de choses qui sont très profondes. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le traité Psachim s'ouvre sur la manière dont on doit s'exprimer. Et pourquoi? Parce qu'on va dire, à la lumière du 14e jour, on va commencer à inspecter la maison pour vérifier s'il reste du chametz, s'il reste du levain. En fait, c'est pas la lumière, c'est au moment où il fait nuit. Où le 14e jour commence, quand il commence à faire nuit. Et là, la Gemara va nous expliquer qu'il faut parler proprement, et pendant une page et demie, deux pages, pardon, la Gemara va se pencher sur le fait de parler proprement. Donc ça aussi, ça fait partie de l'héritage. Alors, là, on est dans Parashat Tazria. Parashat Tazria, c'est la parasha qui nous raconte les plaies qui frappaient un individu qui avait fait du Lashon Hara. Dans Tazria et Metzora, c'est de ça dont on parle. On parle de gens qui utilisent la bouche pour détruire. Quand on parle en hébreu, les daber, on dit « ani dibarti davar ». J'ai dit quelque chose. Davar, ça peut donner aussi dever, c'est la peste. En fait, quelle est la frontière entre « j'ai dit quelque chose davar » et « j'ai dit quelque chose qui est la peste ». C'est quoi la frontière? C'est la vocalisation. Le davar, le kamatz, d'accord? Et dans le dever, c'est le ségol. Alors c'est très intéressant parce que nous, à Israël, on est appelé le Ham Segula. On est appelé le peuple qui est un trésor pour Hachem. Mais Ségoula, ça vient aussi nous rappeler le Ségol. Le Ségol, c'est une ponctuation, il y a trois points. Deux points sur la même ligne et un troisième point en dessous. Et dans les livres qui s'intéressent à la grammaire, on nous explique que le Ham Ségoula, le peuple qui est un trésor pour Hachem, c'est aussi un peuple qui a le Ségol, qui a cette ponctuation. Pourquoi? Parce que vous avez deux manières d'écrire le « et » en hébreu. Soit avec deux points qui sont sur la même ligne, ou soit avec trois points. Deux points qui sont sur la même ligne, c'est deux points qui en quelque sorte partent dans direction opposée. Mais quand il y a un troisième point qui est là, il les réunit. Il les réunit et il donne l'équilibre. Et en fait, le ségol, la ponctuation du ségol, c'est la ponctuation qui nous parle de l'équilibre. Et quand on nous dit que quelqu'un, eh bien, faire le dévers, il va parler, sa parole vient du dévers, c'est qu'il a oublié le ségol, il a oublié l'équilibre dans la parole. Par contre, quand quelqu'un va dire « davar », qui est ponctué par le « kamatz », par le « a », c'est une ponctuation qui est très optimiste, qui nous ouvre à l'optimisme. En fait, tout ce qu'on va raconter pendant la soirée du Seder doit nous amener à l'optimisme. Et d'ailleurs, c'est une règle du soir du Seder. On va partir de choses qui sont très négatives, l'esclavage qu'on a subi, et on va terminer sur la délivrance, et les miracles qui l'ont accompagné. Le dibour, c'est un dibour qui doit nous inviter, la parole doit nous inviter à beaucoup d'optimisme. Et là, dans les périodes qu'on vit aujourd'hui, qui est une période finalement sombre dans l'histoire du peuple juif. Il y a 6 mois, on a vécu un massacre horrible, on est au milieu de l'isolement d'Israël, de l'isolement du peuple juif, on est au milieu de la mauvaise foi des nations, de l'hostilité des nations, et on est au milieu d'une incertitude absolue. Et c'est précisément là qu'on doit apprendre à développer une parole qui est une parole optimiste. Alors optimiste, c'est un mot creux, parce que c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose pour nous, tel qu'il dit comme ça. Optimiste en hébreu, ça veut dire émouna, foi et mashiach. Le mashiach, la délivrance. C'est précisément dans ce genre de période qu'on doit prier pour la délivrance. Donc l'objectif de la Haggadah, c'est non seulement de nous faire parler de la délivrance, mais de nous familiariser avec la délivrance. Et d'ailleurs, une des phrases clés de la Haggadah, on l'a chanté, on la connaît, c'est que en chaque génération, des gens se lèvent pour nous exterminer. Aujourd'hui, c'est le Hamas, c'est l'Iran, et c'est les éternels futurs perdants. Mais à Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, Dieu nous sauve de leurs mains. Au milieu des souffrances et au milieu de tous les exils, on se rappelle qu'à chaque fois, Hachem nous a sauvés. un peu pour paraphraser De Gaulle qui disait Paris libéré, Paris blessé. Le peuple juif blessé, le peuple juif persécuté, le peuple juif malmené, mais le peuple juif libéré. Parce que De Gaulle aurait pu dire le soir du CEDER s'il était juif. Et en fait, c'est de ça dont il s'agit. Il faut avoir une parole qui soit une parole très positive dans cette période-là, précisément, là, maintenant, d'accord ? Ne pas se plaindre, ne pas ressasser en permanence les mauvais jugements des nations à notre égard, ça n'a aucune espèce d'importance, parce que de toute façon, le plan divin s'accomplira. Que les gens le veuillent ou non, que les gens veulent y participer ou pas, je vous renvoie une très jolie interview de Rav Brandt, diffusée par Torah Box, très jolie, qui parle sur la situation du peuple juif aujourd'hui. Le plan divin est un plan qui s'accomplira, quoi qu'il arrive. C'est Hachem qui décide. Et donc, il faut avoir cette émouna, cette foi, d'en parler comme ça, d'en parler de cette manière-là. Et c'est ce à quoi la paracha de Tazria nous prépare. Vous savez que le Rav Etz Chaim, je terminerai avec ça, disait qu'une des bases du Lashon Hara, de la médisance, c'est le râlage. De râler en permanence, de ressasser, de ruminer en permanence, c'est ce qui envoie directement au Lashon Hara. C'est la même chose, ressasser, ruminer tout le mal que pensent de nous les nations du monde ou qu'ils disent à notre égard ou qu'ils peuvent nous faire, ça n'a aucune espèce d'importance. Rappelons-nous des miracles d'Hachem, rappelons-nous qu'Hachem est avec nous tout au long de l'histoire et parlons-en. Préparons-nous à le raconter, on a 2 semaines maintenant pour se préparer à la soirée du CEDER pour bien raconter les choses et les faire vivre à nos enfants et à nos petits-enfants. Voilà, Shabbat Shalom.
Bien Rav Mordechai, on vous dit Shabbat Shalom, savoir bien parler. On va déjà essayer ce soir de bien se parler les uns les autres.
Exactement.
Hein, on sait qu'il y a toujours des agacements, des fatigues, moi le premier. Hein. Et ben non, ce soir, voilà, on se dit, tiens, j'ai entendu un beau Dvar Torah à la radio. Je vais bien parler. Je crois que c'est vous qui avez utilisé cette expression un jour en nous disant « N'oubliez pas que vos premiers invités, c'est votre famille, c'est vos enfants, votre femme, c'est vos premiers invités. » Les invités, on leur souhaite toujours. Pensez que vos premiers invités, c'est votre famille. Rav Mordechai Biton, je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Un bon dimanche je suis pas gentil. Un bon dimanche de ménage peut-être.
Bon, on y est encore jusqu'au cou. Hein? Baruch Hashem. Ah bah, vous savez, quand on frotte, il faut penser que non seulement on frotte le chametz, on frotte la crasse, mais on frotte aussi sur notre cœur. Il faut penser à ça. Il ne faut pas tomber dans
Et donc, justement, d'ailleurs, dans la continuité de ce que vous venez de nous dire, Rav Tobiano, il nous disait, et ne rajoutez pas du chametz au chametz, c'est-à-dire ne mettez pas de la colère, parce que c'est du chametz, hein, donc du calme pendant le ménage. Rav Mordechai, je vous remercie. Rav Mordechai Biton à Jérusalem. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gué. Bonsoir Rav Gué, Shabbat Shalom.
Bonsoir Shabbat Shalom.
Rav Gué, alors vous voulez intervenir ce soir sur la parole, puisque c'est quand même le thème central de notre paracha, Tazria. Et il y a des philosophes qui définissent l'homme comme celui qui est doté d'une pensée. La différence entre l'homme et les autres êtres vivants, c'est qu'il pense. D'autres philosophes ont pensé que c'est la faculté de prévoir. L'homme, il prévoit. Et il y a aussi une autre façon de définir les choses, c'est de dire l'homme, c'est celui qui parle. Et vous voudriez réfléchir, je ne sais pas si vous appartenez à une école ou à une autre, je pense que vous appartenez à l'école de la Torah, c'est déjà pas mal, mais vous voulez justement essayer de réfléchir avec nous sur qu'est-ce que ça veut dire parler ? Qu'est-ce que ça veut dire que... De quoi est-ce qu'on est doté finalement ? C'est quoi la parole ?
Voilà, d'accord. Justement, vous me demandez de quelle école je fais partie, bien celle de Rashi, Rashi sur la Torah, qui dit que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est Déa et Dibour. Voilà, c'est les deux mots qui disent Déa et Dibour. Donc la parole, c'est Dibour. Déa, c'est
la conscience.
La conscience, la sagesse. En fait, c'est un peu compliqué à
traduire. La pensée, alors justement, donc lui, il est dans les deux écoles, alors. Pensée et parole.
Oui, mais c'est un peu plus... C'est trop large, en fait. C'est pas la pensée. Pensée, Déa, c'est plus que la pensée. C'est une véritable perception profonde des choses et qu'il faudrait bien, bien définir. Mais je pense pas qu'on va le faire dans ce cadre. On va se concentrer sur la parole. Donc, Dibour, c'est effectivement ce qui est une des deux choses qui distingue l'homme de l'animal. Et je voudrais essayer d'expliquer ce que dit le Maharal sur un Mara très connu, qui nous rappelle que lorsque l'enfant, donc le fœtus, sort du ventre de sa maman, Il découvre à ce moment-là, il commence à crier, et on nous dit que l'ange touche la bouche, enfin au-dessus de la bouche, et qu'en touchant cet endroit-là, l'enfant oublie toute la Torah qu'il a étudiée dans le ventre de sa mère. Parce que dans le ventre de sa mère, la Gemara nous dit qu'il y a une sorte de bougie allumée au-dessus de sa tête, évidemment, ça, ce sont des métaphores, et il apprend toute la Torah. Et puis lorsqu'il sort, et bien à ce moment-là, il oublie, parce que l'ange qui est préposé à cette chose-là vient lui faire oublier toute la Torah en touchant justement la bouche. Alors le Maharal explique qu'il ne faut pas comprendre les choses au premier degré, évidemment, et que le fait de sortir vers l'extérieur et que l'ange parle, touche cet endroit, c'est un endroit en fait qui rappelle la force de la parole, en fait. C'est la parole, il accède à la parole au moment de sa naissance. Alors on sait bien qu'un petit enfant ne parle pas dès qu'il va naître, mais il obtient les potentialités de la parole. Il reçoit quelque chose qui lui permettra un jour de parler. Alors c'est très intéressant d'étudier le Maharal qui nous explique que la parole, elle est la conjonction, la liaison entre Kouf et Neshama, entre le corps et l'âme. Et comment le Maharal le déduit? Il le déduit d'un autre texte qui nous dit que lorsque l'homme, Dieu a insufflé en l'homme Nishmat Haïm, une âme vivante, une âme de vie, Vayi Adam la Nefesh Raya, l'homme est devenu une âme qui parle, une âme qui vit. Le Onkelos traduit, le Targum Onkelos, la traduction araméenne, nous dit qu'il est devenu Ruach Memalala, un souffle qui parle. Ça veut dire que au moment où Adam Harishon reçoit cette Neshama, cette âme, et c'était un morceau de terre qui finalement devient vivant grâce à cette Neshama, lorsque Dieu lui insuffle cela, eh bien l'homme se relève et se dit, à ce moment-là, je suis doué de la parole. Il accède à la parole. Vayi Adam la Nefesh Chaya, comme dit le verset, il fut une âme qui vit, c'est-à-dire, d'après l'Onkelos, la traduction arménienne, qu'il est devenu un homme doué de parole. Et donc, le Maharal explique que c'est justement au moment où l'âme pénètre dans le corps, c'est-à-dire qu'il y a une jonction entre les deux, qui se fait aussi à la naissance, parce qu'avant la naissance, il y aurait une sorte de séparation entre l'âme et le fœtus, évidemment à expliquer également, mais au moment où il naît, il y a cette relation qui se fait entre l'âme et le corps, qui fait que l'enfant devient doué de parole, même s'il ne parle pas tout de suite, mais il a cette fonction qui lui est offerte, et qui est le moment où, justement, il tombe dans ce que nous connaissons tous, c'est-à-dire le libre arbitre, ce choix entre le bien et le mal, et effectivement, l'âme, la parole, est l'expression, justement, de cette jonction entre corps et âme. Pour l'expliquer d'une façon très simple, c'est que lorsque je vous fais un Dvar Torah, d'accord, un Dvar Torah, je vous donne, transmets un message de la Torah, eh bien j'utilise évidemment des cordes vocales, mais j'utilise aussi un langage, donc emprunté en ce qui concerne le français, ben évidemment la société dans laquelle nous nous trouvons, qui utilise des métaphores, des expressions qui ne sont pas des métaphores et expressions spirituelles, mais simplement qui viennent du corps, qui viennent de l'expérience humaine, et qui justement ces paroles doivent porter une parole éternelle, qui est la parole de Dieu, et cette jonction entre les deux, c'est la parole qui la représente le mieux. Donc au moment où l'enfant va naître, l'ange touche cet endroit, c'est-à-dire que tout simplement le corps et l'âme ne font qu'un, alors que dans le corps de la maman, lorsqu'il est encore en état de fœtus, eh bien une sorte de séparation entre les deux, ce qui lui permet, grâce à cette âme, de voir d'un bout à l'autre du monde, comme dit la Gemara. Mais au moment où l'âme pénètre dans le corps, eh bien c'est comme rentrer dans un bunker, il ne voit plus rien, et il doit utiliser son cerveau et son cœur pour redécouvrir la vérité. C'est-à-dire que Hachem a voulu que tout se bouge, tout soit fermé, tout soit obscur. Mais pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on retrouve tout par nos efforts, par notre recherche personnelle. Donc finalement, la parole est d'un côté une très grande force, une très grande puissance, mais elle exprime justement ce lien entre corps et âme qui finalement nous obscurcit plus que le reste. Parce que lorsque l'âme est indépendante, elle voit tout. Mais lorsqu'elle rentre dans le corps, elle ne voit plus rien. Et c'est au moment où elle ne voit plus rien qu'elle va rechercher son créateur, et pour le rechercher, le retrouver, elle va utiliser l'intellect, elle va utiliser les sens, les différentes sensibilités, la sensation, l'émotion, tout cela, tout ce qu'un homme est, va permettre à l'âme de retrouver son créateur. Mais c'est ça le but de la création, c'est justement de le chercher, de chercher Dieu, et de le retrouver à travers des expériences humaines et une recherche des fois très difficile, mais qui nous permet de le dévoiler dans le quotidien. Donc en fait, la parole, c'est ça, c'est un peu le sceptre de Dieu. J'ai l'habitude de dire que la parole, c'est un peu comme une force incroyable que Dieu nous donne, qui n'appartient qu'aux hommes. Hein. Alors effectivement, les animaux se parlent, hein. Les animaux ont une expression parlée, même si c'est pas des paroles aussi élaborées que les nôtres, ils ont des messages, ils se parlent les uns aux autres, mais c'est des paroles, on va dire, qui n'expriment rien de profond. Ce sont des paroles qu'on pourrait comparer en ce qui nous concerne. Si je vous dis maintenant il fait jour, vous me dites d'accord, il fait jour, c'est pas une parole, on va dire, dont je parle. La parole dont je parle, c'est une parole qui exprime des vérités, des profondeurs, qui exprime une émotion forte. Tout ça, ce sont des paroles extrêmement puissantes et profondes qui vont, qui ne sont que l'apanage de l'homme. Aucun animal n'a ce type de parole élaborée. Et donc ça, c'est le cadeau qu'Hachem a fait, et c'est une force incroyable, et qui a d'ailleurs, parce que c'est le résultat de ce que Hachem a insufflé en nous, il a insufflé en nous cette Nishmat Haïm, donc la parole est exactement une force incroyable, on peut avec la parole construire et détruire, on le voit tous les jours, et justement la paracha de Tazria nous parle des plaies qui sont conséquentes à une parole, on va dire, mal utilisée, des paroles de médisance, qui entraîne ce genre de réaction, comme on le voit avec Myriam, qui en parlant du mal de Moshe, elle a été frappée de tsarat, de lèpre, comme Moshe Rabbeinu qui dit du mal du peuple juif, qui met sa main dans sa poitrine et qui la ressorte blanche de tsarat, de lèpre. Lui aussi, il a fait l'expérience d'une mauvaise parole sur le peuple juif, etc. Donc on a toutes sortes d'exemples dans le Tanakh, dans la Bible, pour nous rappeler que le tsarat, c'est-à-dire la lèpre, dont parle la paracha de Tazria, elle vient sanctionner une personne qui utilise cette parole à mauvais escient. Et c'est quand même extraordinaire de voir que c'est une des seules mitzvot de la Torah qui est sanctionnée d'une façon si surnaturelle, d'une façon métaphysique. Enfin, c'est une force incroyable qu'Hachem a mis dans le monde. Aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus. Mais cette révélation que Hachem apporte à l'homme en disant attention à ta parole, c'est quand même assez unique. Il y a beaucoup de fautes possibles. On peut faire beaucoup d'erreurs dans la vie. Mais ça, semble-t-il, c'est sanctionné d'une façon très particulière. Mais pourquoi? Parce que c'est tout simplement, j'appelle ça le sceptre de Dieu. Hachem nous donne quelque chose de très intime, de très proche de lui, auquel il tient beaucoup. Et utiliser ce qu'il nous donne à mauvais escient, c'est inacceptable. Beaucoup plus que n'importe quelle autre fonction de l'être humain. Donc voilà pourquoi la paracha de Tazria. Alors je voudrais relier cette paracha de Tazria à la période dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire Pessah. Pessah, c'est un moment de parole. On raconte à nos enfants la sortie d'Égypte. C'est Igad Talevincha. C'est une période de discussion, d'échange, et surtout de parole, pour justement nous libérer de l'exil de la parole. On parle de l'exil de la parole, Galut Hadibour dans le Zohar HaKadosh, qui était malheureusement le sort des Juifs en Égypte, qui ne pouvaient pas parler, qui était surtout sous influence égyptienne et qui disait un peu ce qui se disait autour d'eux, c'est-à-dire ils étaient sous emprise égyptienne, et il faut justement se libérer la parole, et c'est pour cela qu'à Pessah, on a le premier jour la Haggadah et le dernier jour la Shira. Enfin, c'est comme ça, c'est ce qui rend un peu la fête de Pessah. La Haggadah le premier jour et la Shira le dernier jour. Shira, c'est-à-dire le chant Azir chez Moshe au moment de la sortie d'Égypte, au moment du passage de la mer, et Haggadah, le soir de Makat Bechorot, d'appeler des premiers-nés, au moment où on sort physiquement d'Égypte, c'est la Haggadah. Donc tout tourne autour de la parole pour nous dire que finalement la libération d'Égypte, c'est libérer la parole. Et une fois que cette parole est libérée, et c'est-à-dire qu'on parle, d'ailleurs vous voyez encore aujourd'hui, le printemps arabe, on parlait du printemps arabe, il vient du fait que pendant les tyrans musellent en fait la parole, puisqu'ils interdisent, il y a une interdiction de liberté d'expression, on parle sur une radio, donc on est dans un pays où la liberté d'expression est totale, mais il y a des pays où justement les tyrans, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de de fermer, d'enfermer, et pas d'enfermer seulement les gens, mais aussi de les empêcher de parler. Mais comme il y a eu Internet et cette libération de la parole, d'un change à travers les réseaux et à travers Internet, ils n'ont pas pu empêcher ce printemps arabe qui a amené justement un changement politique très fort dans ces différents pays. Parce qu'en fait, finalement, la parole est libératrice. Et c'est ce que Pharaon dit à Moshe. Il dit, Moshe, vous me demandez de libérer le peuple juif, mais en fait, c'est parce que vous avez trop de temps. Quand vous avez le temps du livre, vous parlez, et en parlant, vous parlez d'une autre vie, d'une autre option de vie. Donc, je vais rajouter du travail, je vais renforcer mon influence, et surtout, vous allez être de plus en plus occupé, et vous n'aurez pas un instant pour réfléchir, et surtout pour parler, et donc de commencer à remettre en question l'autorité égyptienne. Voilà un peu le résumé de tout cela, et c'est pour ça que je pense que c'est très important que pendant la fête de Pessah, on ait vraiment cette liberté de parole, de raconter, de dire combien Hachem nous a protégés pendant toutes ces générations, et malgré les très très grandes souffrances de ces 6 derniers mois, parler, de dire que nous n'abandonnons pas, nous ne baissons pas les bras, et nous faisons comme ces femmes, on dit qu'on a été libérés grâce aux femmes, les justes, les tzadkaniot, les femmes valeureuses du peuple juif, qui n'ont jamais baissé les bras, qui ont toujours encouragé leur mari à avoir des enfants et à continuer l'histoire juive, et bien c'est par ce mérite de ces Yocheved et Myriam qui ont sauvé les enfants juifs de la mort. Comme vous le savez, Pharaon voulait tuer tous les enfants juifs, tous les garçons, et donc elles ont pris un risque énorme. Et bien, par le mérite de ces femmes-là et de cette confiance dans l'avenir et ces paroles positives et constructives, et bien c'est comme ça que nous sortirons aussi de ce flot de paroles négatives sur Israël et sur le peuple juif, et que finalement la partie sera gagnée, et la parole positive et constructive, la parole de Dieu pourra triompher des obscures paroles, des paroles très obscures de nos ennemis qui essayent justement de faire tout le contraire, d'utiliser la parole pour nous, nous attaquer et nous calomnier surtout. Et ça, c'est vraiment une période où je pense la médisance et la mauvaise parole est vraiment d'actualité lorsqu'on imagine, on sait tout ce qui s'est passé depuis quelques mois où vraiment nous avons vu apparaître des paroles absolument négatives alors qu'elles étaient fausses, surtout des paroles mensongères et qui accusent Israël de tous les maux d'une façon absolument inimaginable.
Mais essayons effectivement, on va se libérer notre parole de manière nourrissante, de manière bienveillante, soir de Pessah, comme vous nous l'avez recommandé. Moi, j'ai mal présenté les choses tout à l'heure en disant l'homme, c'est celui qui prévoit. Non, l'homme, c'est celui qui est capable de se mettre dans un projet. Parce qu'un animal, il peut prévoir. Il veut chasser, il a faim, il chasse, et donc il peut prévoir que là-bas, il y aura de l'eau, par exemple, pour moi. Mais il n'est pas capable de se mettre dans un projet. J'ai faim, je mange. Voilà, bah écoutez, Rav, merci. Mais dès avec ce plaisir. Soir... Pardon ?
Avec grand plaisir qu'on puisse le Shabbat, comme vous dites, le voilà, Shabbat, c'est un jour... Ce C'est un jour où on peut parler plus facilement en famille. C'est l'occasion de créer, de renforcer les liens familiaux à travers des échanges, les zmirot de Shabbat et les vrais Torah de Shabbat, d'aller à la synagogue, de rencontrer la communauté et de passer des moments de convivialité et d'écouter la parole de la Torah au moment de la Kriyat HaTorah. Tout ça, ce sont des grands moments qui permettent justement au peuple juif de dire des belles paroles qui justement maintiennent ces paroles le peuple juif pendant toutes ces générations, malgré les détracteurs qui essayent de nous accuser de tous les maux.
Rav Guy, je vous remercie et je vous dis Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shalom loy boy na boy, Hashem lo yishmari, shalom shokat shoyim.